à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et aujourd'hui, nous allons parler de couture, de persévérance, de Paris et d'Afrique. Car j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le couturier Iman Aïssi, premier couturier africain subsaharien à entrer de façon officielle et pérenne dans le calendrier de la couture. Donc ce parcours va être intéressant puisqu'il va permettre de comprendre tout ce qu'il faut traverser avant que le mot reconnaissance ne cesse d'être simplement une promesse un peu vague. Puisque donc mon invité, Monsieur Iman Aïssi, est né au Cameroun dans une famille d'artistes. Il a lui-même été danseur au Ballet National du Cameroun, puis mannequin pour plusieurs grandes maisons parisiennes, avant de devenir lui-même celui qui fait ce secteur en devenant couturier. Autrement dit, il a d'abord connu la mode par le corps, puis par l'image, avant de la construire de ses propres mains au sein de la matière. Puisque en 2020, après plusieurs décennies de travail, il devient donc le premier créateur originaire d'Afrique subsaharienne invité au calendrier officiel de la couture, un moment historique certes, mais les moments historiques ont parfois la fâcheuse tendance à faire oublier les années qui les précèdent. Et dans cet épisode, nous allons justement revenir sur tout ce parcours. Sur ses débuts à Paris, sur les portes qui s'ouvrent, celles qui restent fermées, celles qu'il faut ouvrir à coups de grands renforts et de courage. Mais nous parlerons également de sa vision de la couture, ce qui le distingue selon lui des autres, ce qui qualifie sa démarche et notamment de l'importance pour lui du corps, du mouvement, de la matière qu'il fait dialoguer avec des techniques venues d'Afrique sans jamais tomber dans le folklore. Car évidemment, l'Afrique n'est pas un bloc, ni une tendance, ni une réserve d'inspiration dans laquelle l'Occident viendrait élégamment se servir. C'est un continent immense, traversé de cultures, de marchés, d'histoires et de visions très différentes. Et, notamment, c'est un continent qui a une clientèle assez spécifique et qui parfois a du mal à soutenir sa propre création locale. Mais bon, ça, vous allez le voir, on va en parler avec Monsieur Aïssi. Alors, je ne vais pas élaguer plus que ça, vous allez le voir, cet échange est suffisamment riche comme ça. Je remercie simplement Monsieur Iman Aïssi et je vous invite, comme d'habitude, à aller retrouver le podcast sur l'Instagram Décousu Podcast, à partager cet épisode autour de vous, à liker, à commenter. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast pour qu'il se développe s'il vous a plu. Allez, moi, je vous souhaite un très très bon épisode. Aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Iman Aïssi, et c'est un vrai plaisir puisque ça fait très longtemps que je souhaite le recevoir sur le podcast Décousu. Donc déjà, bonjour Monsieur Aïssi, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va bien, je suis un peu, un peu entre deux chaises, comme on dit, je suis en pleine préparation de la nouvelle collection qui doit défiler pour la saison qui commence la semaine prochaine.
Voilà, parce que alors non pas vous écoutez, mais à l'heure où on enregistre, on est vraiment la veille de la semaine de la couture. Et donc, Monsieur Aïssi, pour tout vous dire, me reçoit en étant en train de coudre actuellement sur ses genoux une robe. Voilà, j'imagine que c'est pour chacun ses occupations, j'ai envie de dire. C'est assez phénoménal de pouvoir assister à ça. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément votre maison, votre travail, est-ce que vous pourriez synthétiquement présenter ce que vous faites, ce qu'est votre propre maison de couture, depuis combien de temps vous travaillez dans votre maison et tout ça pour qu'on vous situe un peu dans le paysage?
Okay. Donc je suis Iman Aïssi, d'origine camerounaise. J'ai vécu à Paris depuis 30 ans, j'ai travaillé à Paris, j'ai été danseur d'abord, j'ai été mannequin pour les maisons de luxe françaises. Et je suis créateur de mode aujourd'hui et j'ai réussi à passer de l'autre côté de le domaine de la haute couture. J'ai écrit 3 livres, 2 livres sur le registre de contes imaginaires et un nouveau livre qui vient de sortir sur la réflexion de la mode luxe et tout ce qui nous entoure dans le domaine artistique, surtout la mode.
Oui. Là où c'est assez fascinant, c'est que je vous reçois à un moment donné où vous avez une actualité assez, on va dire, prolifique, puisque déjà, il y a eu l'exposition au Quai Branly il y a quelques mois maintenant sur justement la mode africaine. Vous étiez notamment l'image de vraiment cette exposition. Il y a évidemment, comme on l'a dit, la haute couture qui arrive, et puis la sortie de votre livre. Donc, ça fait beaucoup de choses et c'est absolument génial de pouvoir en parler parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, et on va directement rentrer sur ce terrain, vous êtes d'origine donc d'Afrique subsaharienne et le premier couturier qui rentre vraiment de façon officielle au calendrier. Je renvoie d'ailleurs les auditeurs de Décousu au premier épisode de Décousu où vraiment je vous explique ce que c'est que la haute couture, puisque c'est quelque chose qui est vraiment protégé juridiquement, institutionnellement, donc c'est compliqué d'y rentrer. Et donc, vous avez dit être originaire du Cameroun, mais quand est-ce que vous êtes arrivé sur Paris? Quand est-ce que vous avez commencé à travailler dans la mode parisienne? Et quand est-ce que votre maison déjà a existé, a été créée et est rentrée au calendrier?
Alors plus justement, si on peut dire ça comme ça, j'arrive à Paris en 91. Dans les bagages, les valises de Yannick Noah en tant que danseur pour tube Saga Africa, pour la tournée Saga Africa. Donc, et quand j'ai fini la tournée, j'ai voulu rester parce que comme il savait déjà courir un peu, il faisait déjà le mannequinat en amateur en Afrique et il était danseur. Je me suis dit Paris, c'est l'endroit là où il fallait essayer de voir si qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que la mode a besoin de moi en tant que mannequin ou en tant que créateur de mode? Donc, tout de suite, je n'ai pas perdu du temps. J'ai su quelqu'un qui sait faufiler entre deux, trois métiers en même temps. D'accord. C'est question d'organisation. Donc, en même temps, j'ai dansé, en même temps, je faisais les castings pour la mode, la publicité, et je faisais aussi les plateaux de cinéma pour en tant que figurant ou remplacer des comédiens pour faire les silhouettes à la place des comédiens.
Il me semble que votre maman était mannequin aussi.
Ma maman était la première Miss Cameroun en 1960, Madame Engaïs et Julienne, qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Ah. Elle est partie. Ouais, c'est très triste quand on perd une maman.
Forcément,
ouais, donc
ça rend hommage.
Ouais, j'espère que son âme va continuer son ascension en paix, comme on dit. Et donc tout de suite, je m'étais organisé entre deux castings. Il y avait toujours quelque chose à coudre, tout ça dans mon sac pour rattraper le temps, pour ne pas perdre trop de temps. Et je m'organise pour mettre un peu d'argent de côté. Je faisais d'autres jobs aussi, des petits jobs par-ci par-là pour mettre de l'argent à côté. J'y rêvais de faire un défilé. Parce que quand je faisais du mannequinat, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de créateurs noirs qui étaient réguliers. Mmh. Il y en avait qui apparaissaient, qui disparaissaient, mais ce n'était pas très courant.
D'accord.
Même des défilés, quand les saisons arrivaient, il y en avait un ou deux, et après la prochaine saison, il n'y en a plus, ils ne défilent pas. Est-ce que c'était question de moins, question de... J'en sais rien. Donc j'avais remarqué ça, et je comprenais pas. Je m'étais dit, moi je vais essayer de faire la route. Hein.
D'être permanent,
et d'essayer de tenir la route pour montrer que l'Afrique est debout. Et j'ai mis de l'argent de côté, j'ai acheté une petite machine ici sur le marché Saint-Pierre et c'est comme ça que j'ai fait ma première collection à Paris.
Et donc vraiment à la main quoi.
À la main. Et à l'époque j'habitais la rue, une petite rue dans le sentier et j'ai cousu 120 robes à poids,
oh,
que
Dieu.
Des poids, de la première robe à la dernière robe, tout était de poids, c'était rigolo.
Bah, c'était presque... c'était du Jacques Mus avant l'heure.
Ah
ça,
oui, c'était énorme. Mais je crois même que même les seigneurs de l'amour, les Saint-Laurent ou Dior ne font pas jusqu'à 120 robes. Moi, je voyais très grand. J'étais...
vous étiez tout seul? Vous aviez des amis?
Moi, j'étais tout seul. J'ai tout fait tout seul. En plus, c'était pas... À l'époque, j'avais pas la main comme aujourd'hui. J'ai fait des robes, c'était découpé cloué. Je crois que s'il y avait une robe qui tenait la route, s'il y avait des robes qui tenaient la route, pardon, il n'y avait qu'une seule qui tenait tout le reste, c'était un peu comme ça.
Et donc, vous aviez déjà l'envie de créer votre propre maison, mais à ce moment-là, comment vous étiez formé? Comment vous avez... est-ce que vous avez voulu que cette comment dire, faire vivre cette collection, donc la rendre publique, essayer de contacter, essayer d'utiliser peut-être votre réseau après être mannequin, enfin, parce qu'on imagine mal comment on passe aujourd'hui à être un des créateurs officiels du calendrier après avoir créé de briques et de brocs dans le sentier, c'est-à-dire comment déjà vous avez travaillé votre main, comment vous êtes formé à la couture et comment vous avez commencé à créer votre visibilité.
Alors ça a été très dur, de haut et de bas. Et à l'époque, j'étais sans papier. J'ai passé beaucoup d'années sans papier. Et des petits boulots par-ci, par-là.
Donc, j'imagine pas déclaré en plus de ça.
Ah oui, parce que quand les gens sont, ils savent qu'on n'a pas de papier, il peut se passer tout et n'importe quoi.
Ah, c'est ça, c'est une exploitation.
Ah oui, exactement. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui n'ont pas payé. En plus,
ils ne pouvaient pas aller
me plaindre nulle part. Donc, en même temps, je ne regrette pas. C'est la vie qui est faite comme ça. Je ne regrette rien. C'est le passé, Et il était à dire que si on est autodidacte, je n'ai pas fait de formation dans la couture. Être mannequin dans les cabines, défiler pour les créateurs des maisons de couture, ça m'a beaucoup aidé. Surtout quand on est mannequin cabine,
on essaie les toiles. Mais oui, vous êtes à l'intérieur dans le cœur du réacteur, quoi.
Exactement. Ouais. Donc à l'époque, on avait encore la chance à l'époque de voir les vrais maîtres eux-mêmes, oui. Comme Monsieur Cardin, comme plein d'autres que j'ai pu travailler avec eux. Ou travailler dans leurs ateliers en tant que mannequin, donc on voit là où ça se passe, la vraie création, comment on travaille la coupe, comment on travaille les toiles,
la matière,
tous les petits détails, les finitions, tout ça. Mais en même temps, quand on essaye aussi, à l'époque, on nous donnait la parole. Quand tu marches, tu essaies l'étoile, tu dis est-ce que ça me gêne, peut-être la fourche du pantalon est très haut, peut-être qu'il faut le baisser un peu, les poches, je sens la couture des poches qui me gratte un peu la peau, les emmanchures, ça serre un peu, l'encolure, ça tombe pas comme il faut, peut-être qu'il faut peut-être rajouter 2 cm ou 3 cm, plein de petits trucs comme ça. Donc, on n'était pas que des simples porte-manteaux à l'époque. On avait la parole, on participait aussi et ça enrichit quand on a un peu. Moi, j'étais curieux dans.
Vous saviez ce que vous voulez faire aussi, donc vous imaginiez, vous. Oui.
Je veux me dire, j'étais intéressé. Ça me plaisait, j'étais intéressé. Donc, tout de suite, j'ai prêté attention, je voulais savoir, j'ai posé des questions aussi. On me mettait une toile, je faisais très attention, je portais la toile avec beaucoup de fierté, je marchais. En plus, on évoluait à l'époque on avait une certaine attitude. On nous demandait de jouer, tu vois. On était presque des comédiens aussi.
Bien sûr.
Tu ne portais pas juste le vêtement pour porter comme ça, il faut aller avoir une certaine assurance. Donc, tout ça, ça m'a forgé.
Mais alors, justement, c'est ça aussi que je trouve assez passionnant, c'est qu'en fait, moi j'aime beaucoup votre maison parce que, au-delà évidemment du côté grand soir qui est propre à la couture, ce sont des pièces qu'on imagine réellement pouvoir porter. C'est-à-dire pouvoir bouger, passer une soirée entière dedans. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pièces qu'on imagine plus, par exemple, sur une photo Instagram que portées par une vraie femme. Donc j'imagine que aussi cette expérience du corps vous a formé sur la portabilité aussi.
J'étais d'abord danseur. Je suis né dans une famille là où le corps, la culture du corps était importante. Mon papa était dans les années 50, il a boxé pour la France. Il était boxeur anglais. Il faisait la boxe anglaise. Donc il a boxé pour les couleurs de la France dans les années 50. Ma maman, elle était première Miss Cameroun de l'indépendance. Elle a fait du mannequinat, de la danse. Donc on avait le côté des athlètes et aussi le côté esthétique très. De la danse, du mannequinat, la boxe. Parce que quand on est sur un ring, le jet de jambes, le coup de poing, la manière qu'on se positionne, c'est très élégant. Quand on voit certains boxeurs qui savent décaler, c'est très beau à voir. À part qu'il y a la violence qui va accompagner cette cadence de jet de jambes avec les gens.
Oui, mais pour autant, justement, la boxe, je trouve que c'est un sport magnifique parce qu'il y a des règles aussi. Et le but, c'est justement d'être élégant dans le combat.
Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a un côté esthétique qui est assez beau. Quand on voit les carrures, le positionnement, les allures, tout ça, la cadence sur les jeux de jambes, les 1-2-1, les déplacements, les coups de poing qui vont s'enchaîner. C'est quelque chose de c'est spectaculaire. En même temps, c'est violent quand même. Quand on a compris, moi j'ai compris ça et j'ai compris la valeur du corps. Le corps, c'est presque une œuvre d'art. Le corps humain, c'est une œuvre d'art. Et quand on associe le corps à l'étoffe, Il y a quelque chose qui se passe. En tant que mannequin, je sais de quoi je parle. J'ai eu la chance de travailler avec des grands collègues chorégraphes ou à côté des grands danseurs comme Patrick Dupont, qui m'a fait danser dans son ballet, Il danse le monde. Merci Patrick Dupont. Et bien d'autres. Et aussi travailler pour des grosses maisons de luxe françaises comme Yves Saint Laurent ou Franco Ferré ou Pierre Cardin. Et là, on commence à voir les choses autrement. On respecte le corps, on respecte le vêtement, l'association des deux. La valeur de ça, c'est quoi? C'est l'élégance, c'est
La qualité de la matière
la
aussi,
qualité de la
le
matière, le
côté,
savoir-faire,
bien sûr.
de la main de l'homme. Donc c'est là où les choses deviennent vraiment éblouissantes et beaucoup de lumière et de la valeur.
Mais alors, parce que comment est-ce que vous étiez donc mannequin homme, pourquoi alors vous êtes retourné vers la femme? Parce que là, vous parliez de l'emmanchure, de questions aussi pour le pantalon, etc. Donc là, on vous parlait de vêtements d'homme. Mais comment vous avez aussi cette volonté d'expérimenter, de travailler sur le corps et le vêtement féminin?
C'est ma mère, c'est ma mère. J'ai eu la chance d'avoir une très belle maman dans la maison qui était, pour moi, c'était une fée. Et son entourage aussi, les belles femmes de la famille, des copines de ma maman, ses collègues, parce qu'elle était hôtesse de l'air aussi pour Air Afrique, Air France. Elle a commencé par travailler pour Air France à l'époque, ensuite Air Afrique et en troisième Air Cameroun. Donc tout ça, ça m'a ouvert les yeux. Et aussi, quand j'arrive à Paris, et commence à être attiré par. J'entre dans le domaine de la mode avec beaucoup de difficultés, ça a pris le temps que ça a pris. Et mes premières copines, c'était des femmes comme Katusha, la top modèle, comme la princesse Esther Kamatari, qui était mannequin aussi, comme Rebecca Yoko, une égérie, tous des égéries, comme Katusha, égérie de Saint-Laurent, Rebecca Yoko, égérie de Saint-Laurent, comme Mounia, la grande Mounia aussi, égérie de Saint-Laurent. J'en ai croisé plusieurs qui sont devenus des amis, dont j'avais une certaine attirance vers la beauté féminine. Je m'étais dit, et aussi à la base, quand on regarde les petits enfants, garçons ou filles, quand on est bébé. C'est nous qui séparons que, même pour les couleurs, on va dire, le rose, c'est pour les petites filles,
Bien sûr.
le bleu, c'est pour les petits garçons. Et
C'est
apparemment,
l'éducation normée.
exactement, c'est nous qui séparons, mais un bébé. Le gestuel d'un bébé ou la manière
Il
qu'un
est
bébé se
pur.
compare, il est pur. Hein. C'est pas, il est ni garçon ni homme, à part qu'il y a le positionnement de comment on dit, l'appareil génital qui diffère des choses la forme, des choses qui se voient. Et aussi, même au niveau des couleurs, qui donnent les couleurs. Apparemment, historiquement, le rose, c'était d'abord pour les garçons.
Oui, tout à fait, c'est la prise de François
Donc,
Ier.
tout ça, c'est la manipulation de l'être humain. C'est l'être humain qui dicte les choses, qui écrit. Donc nous sommes les dictateurs de notre propre vie quelque part.
Et le dictateur, et aussi, alors ça on va pouvoir parler de ça, mais après, c'est-à-dire la dimension du dictateur du bon goût qui est justement la mode parisienne, et justement le fait qu'aujourd'hui vous en soyez au cœur, c'est absolument essentiel. Mais revenons un peu justement dans le temps pour comprendre cette évolution, parce que votre parcours est vraiment très intéressant et assez unique. Justement, donc quand vous dites que vous avez commencé à. Ça a pris du temps, vous avez fait des petits boulots, etc. Vous avez fait votre première collection avec tous ces poids et ces 120 pièces. Comment vous avez constitué votre maison et comment vous avez commencé à vous faire sérieusement un nom? Parce qu'on voit beaucoup de créateurs comètes qui viennent et qui après disparaissent, quoi. Donc comment vous avez réussi à vous inscrire vraiment dans ce secteur-là?
Alors, je m'étais dit tous les ans, il neige ou il pleut ou il fait soleil, il fallait que je présente une collection pour l'honneur de l'Afrique, pour l'honneur de tous les Noirs et pour l'honneur de tous les amis des Noirs.
Vous l'avez déjà comme une question un peu de vengeance, quoi, au fond, ou pas vengeance, mais de reconnaissance, quoi,
Je
peut-être.
dirais, pour moi, c'était une revendication, un devoir. Pour
Ah,
moi, parce
d'accord,
que
ok.
comme il y avait une ville, il y avait qui existait, mais ils n'étaient pas réguliers. Moi, je m'étais dit, il nous faut quelqu'un qui doit être régulier pour représenter. Pas seulement moi, s'il y a deux ou trois ou quatre, c'est mieux. Parce que quand on est nombreux, c'est aussi une force. Quand on est seul, on est faible, parce que vous voyez ce que je veux dire. Donc, avec le temps, le temps passe et tout, je veux beaucoup travailler, je veux améliorer ma clientèle petit à petit. J'ai fait des robes sur mesure pour certaines clientes. J'ai fait un défilé par an.
Et comment vous trouviez vos clientes?
C'était de bouche à oreille d'abord. De bouche à oreille, c'était d'abord les amis, et certaines artistes, des chanteuses, tout ça. Et au fur et à mesure, après, j'ai commencé aussi à démarcher la presse. Parce que le côté presse, la communication, c'est pas du tout évident.
Ouais, tout donc, à fait. Et aujourd'hui, c'est encore pire.
Ah, c'est encore pire. En plus, à l'époque, il y avait encore le pouvoir des journalistes.
Ah, aujourd'hui, plus du tout.
Oh, ça a beaucoup changé. Moi, je regrette l'ancienne époque des vrais journalistes.
Ouais,
c'est dommage, hein, c'est dommage. Sans critiquer qui que ce soit, mais je crois que...
C'est un mouvement de fond, vous critiquez personne.
Je pense que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Chaque chose doit être à sa place. Les journalistes ne peuvent pas disparaître. C'est comme un show en live ou un show on a vu pendant la période du Covid. Les shows avec des vidéos, c'était beau, mais il manquait le show en live. Quand l'être humain apparaît, que l'être humain est assis pour applaudir, l'énergie qui se passe là, on ne peut pas remplacer ça. C'est pour ça aussi que même l'avenir nous promet les machines et les robots et tout ça. Rien ne peut remplacer le fonctionnement d'un être humain. Ça, c'est mon avis. Ça serait...
Ah, mais c'est bien pour ça d'ailleurs que le savoir-faire est aujourd'hui aussi important. On n'a jamais vu autant d'expositions, autant d'aide de l'État pour le développement du savoir-faire parce que, justement, parallèlement au développement de l'IA, on veut retrouver la main humaine en réaction, en fait. Mais c'est très humain, hein, comme toujours, mais...
Absolument, absolument. Mais il y a beaucoup, je ne critique pas, il y a des bonnes choses. Ça montre aussi l'évolution, l'intelligence, jusqu'où l'être humain peut aller. Et après, il y a des abus, parce que parfois, quand on en fait trop, ça nous dépasse. Et après, il peut y avoir tout et n'importe quoi aussi.
Bah ça, on l'a bien vu dans la mode. Mais bon, en tout cas, pour revenir donc, à cette période où vous avez commencé à avoir une visibilité, au tout début, comment vous faisiez même financièrement? C'est-à-dire que si vous disiez que vous faisiez 120 pièces avec autant de tissus, bon, vous allez au marché de Saint-Pierre, enfin tout de même, et puis le fait aussi d'établir vos prix par rapport à vos clientes, etc. Comment vous faisiez, comment vous êtes débrouillé pour avoir une viabilité sur cette maison?
Alors pour faire 120 pièces, c'est des kilomètres de tissus. Et il faut de l'argent. À l'époque, je faisais, différents petits métiers. Je faisais des heures de ménage, je faisais de la figuration, un peu de mannequinat, la danse et tout. Tout ce que quand j'avais besoin de l'argent pour mettre dans mes affaires, hein, j'étais prêt à faire un travail, c'est un travail. Moi, il fonctionnait comme ça. Il n'y avait pas honte du tout d'aller faire le ménage ou quoi que ce soit.
Et vous aviez quel âge à ce moment-là?
Ah, j'ai pas. Aujourd'hui, j'ai 1000 ans, j'ai l'âge du Christ.
Bon, vous étiez jeune en tout cas. Mais bon, enfin, vous avez commencé très très tôt, quoi.
J'ai commencé tôt. Et au fur et à mesure, hein, les choses vont s'améliorer. Même les prix que j'ai donnés à mes robes, j'étais mannequin, j'ai regardé aussi ce qui se passait chez les autres. En même temps, ils faisaient attention, je n'étais pas au même niveau qu'eux. J'ai respecté les hiérarchies, ce qu'on dit. Mais en même temps, il fallait que j'évolue avec la matière, avec
le temps,
c'est du luxe. Le temps, c'est un médicament. Le temps, ça nous suit. Le temps fait effet sur nous et sur notre environnement. Donc, le temps, c'est vraiment important. Donc, le temps qui passait, c'était important de comprendre le fonctionnement et d'apprendre aussi d'observer l'observation. Et les prix, j'ai donné les prix selon les robes ou les travaux qui étaient faits, mais c'était pas cher. Mais d'abord, en première position, je me faisais plaisir. Ouais, il y a même des robes que je faisais, j'étais heureux de donner une robe à quelqu'un que j'aime bien et qui le porte. Il était en joie.
Oui, donc il y a ça aussi, c'est-à-dire comme vous avez travaillé pour vous-même avec votre propre savoir-faire, vous ne facturiez pas forcément le temps que vous mettiez derrière, quoi.
Parfois, il y a beaucoup d'heures, on ne compte même plus le temps. Quand on travaille pour soi, quand on travaille, quand on aime ce qu'on fait, parfois on ne compte même plus. Comme là, c'est que je suis en train de faire des robes là qui vont défiler, parfois une robe, j'ai passé 2 semaines, moi-même, au-dessus de A à Z, aussi d'autres personnes qui viennent travailler sur certaines pièces ou quoi que ce soit, mais certaines robes... Comme les raffias sont très longs à faire. Parfois, certaines raffias comme ça, c'est une semaine et demie de travail.
Ah oui, d'accord.
Le temps de le couper, de le lisser, de le travailler, de le manier, de choisir tous les brindis, de les classer, tout ça, c'est énormément de travail. Donc, il faut d'abord aimer, il faut donner son temps à ça. Et moi, j'adore ça. Donc, certaines robes, parfois, même si on compte les heures, le prix de ça...
C'est infini. Quoi,
c'est infini, sûr. Comme dans le luxe, quand on connaît la qualité des choses, on ne parle pas d'argent, de chiffres.
Non, c'est sûr, non.
Faut
s'apprécier. Bien sûr, ça, c'est sûr. Et, mais alors, comment ça s'est passé au fur et à mesure du temps pour... justement vous développer? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez déjà cette vision? Donc là, vous avez parlé de quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire que le fait de vouloir parler de... Vous sentiez être investi d'un devoir, d'une revendication, ça vous dépassait vous-même personnellement. Et c'est ça qui vous a motivé aussi, j'imagine. Mais donc, au fur et à mesure du temps, comment, quelle vision vous aviez pour votre maison? Est-ce que vous aspiriez déjà à la couture? Est-ce que vous aspiriez à recruter des couturières? Comment s'est passé vraiment le développement de « je suis tout seul, je fais des robes pour mes amis », ça devient vraiment une maison.
J'avoue qu'à une époque, j'ai fonctionné longtemps tout seul. Je faisais des collections tout seul de A à Z. Beaucoup de robes étaient un peu coupées clouées parce que je n'ai pas appris la couture. Mais je suis quelqu'un qui observe et qui a la requête de l'esthétique, une sorte de fabriquer les images, d'embellir la recherche du glamour et du luxe dans ma manière de voir les choses.
L'attitude
aussi. Donc il y a beaucoup de choses que quand je ne comprends pas, je veux faire appel aux gens qui sont spécialisés sur le corset, sur le tailleur, mais beaucoup de choses que j'ai appris à faire moi-même. Donc quand je ne comprends pas, même si je ne suis pas expert, je sais que ça ne marche pas, il y a un défaut, je ne veux pas ça comme ça. Faites-moi ça comme ça. J'ai une idée en tête, je veux voir la réalisation de l'idée que j'ai en tête. J'aimerais la voir naître sur un tissu.
Mais vous avez bien travaillé votre œil à la qualité, quoi, aussi, en étant dans toutes ces grandes maisons.
Exactement, je peux pas faire autrement.
Vous savez, aujourd'hui, on est tellement sur l'image qu'il y a beaucoup de jeunes marques qui sont beaucoup plus sur le marketing que sur la qualité du vêtement, hein. Donc ça, c'est aussi un problème de notre époque. Mais d'ailleurs, on voit qu'il y a un retour de bâton par rapport à ça. Mais justement, c'est ça qui est dingue, c'est que dans la maison Imana ici, peu importe, en fait, que ce soit une robe de grand soir, une coupe très compliquée, que ce soit Instagramable ou pas, en fait on s'en fiche. C'est-à-dire que quand on les voit défiler, parce que je vous remercie d'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller à presque tous les défilés là, de ces dernières années, en fait on voit vraiment quand les mannequins défilent, on a envie de mettre la robe parce qu'on sent que ça va être confortable et pourtant ça donne naturellement une super attitude. C'est vraiment ce qu'on retrouve sur les défilés, par exemple dans Saint-Laurent dans les années 90, 2000 ou 80, quoi. Et c'est, on sent en fait que vous les avez portés, ces vêtements. Enfin, même dans votre chair, vous posez d'abord la question de comment je vais marcher dedans, est-ce que ça va être facile dans les mouvements, etc. On sent que les femmes qui les portent, elles sont contentes de les porter. Je ne sais pas comment dire.
Je dirais le glamour, le chic, le glamour à l'état pur. Saisir l'âme de la personne sans encombrer, sans trop de surcharge.
C'est
comprendre
ça, en fait.
La femme qu'on habille.
C'est pas une performance, quoi. C'est vraiment juste une façon d'être élégante.
Ouais. C'est accompagné, en toute élégance.
C'est pas imposé.
C'est pas imposé. En même temps, la mode est dictateur, parce qu'on impose certaines choses finalement. Mais il faut pas exagérer. Il faut comprendre la personne qu'on a en face. Elle a besoin de quoi? Il ne faut pas la surcharger, il ne faut pas la déguiser non plus. Moi, je déteste déguiser les gens. En plus, il y a déguiser et déguiser. Si on déguise avec une certaine subtilité pour amuser, pour capter envoyer certains messages, les robes à image, les robes à message,
oui,
des trucs très spectaculaires, ça passe. Mais parfois, tout ça, c'est question d'intelligence artistique. Comment on voit les choses, les images qu'on veut envoyer, le message, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut dire derrière une robe ou derrière un tissu ou derrière une image qu'on a composée, qu'on a dans la tête, qu'on veut projeter. Tout dépend. Donc, avec beaucoup de temps, j'ai évolué. L'apprentissage aussi du jour au lendemain, l'observation, l'écoute, tout ça. Et aussi, j'ai rencontré des gens merveilleux dans ma vie, comme des gens très vaches aussi.
Bien sûr. On va parler de ça, évidemment, du côté un peu plus sombre et plus compliqué aussi de ce secteur-là. Mais là, on a beaucoup parlé de votre vision, notamment de la création, de ce que c'était pour vous que créer aussi une robe pour une femme. Mais là, d'un point de vue plus stratégique, on va dire, pour vraiment constituer une maison, même d'un point de vue financier, business model, etc., comment est-ce qu'en fait vous avez fait pour vous développer et pour vous instaurer vraiment avec vos propres ateliers, votre propre vision en termes de communication, de marketing? Est-ce que vous avez tout autofinancé? Est-ce que vous avez cherché des investisseurs? Est-ce que c'est des financiers qui sont venus vous voir? En fait, à partir de quand la maison s'est vraiment installée dans le paysage de la mode pour vraiment devenir sérieuse? Et est-ce que vous avez été seule au développement économique ou est-ce qu'un partenaire financier est venu?
Longtemps, j'étais seul dans le développement économique, très longtemps. Et parfois, on ne me prenait pas au sérieux. C'était parfois les créateurs de mode, il y a certains qui nous prennent au sérieux, d'autres non, comme dans le monde financier. Et les financiers, parfois, ils ne nous comprennent pas. Et quand ils viennent nous voir, ils oublient que nous sommes des artistes. On a
Oui,
l'âme, on
c'est
veut exprimer
vrai.
certaines choses. Et ils ont les chiffres, hein, et ils veulent évoluer avec les chiffres très vite. C'est le chiffre d'affaires. Mais non, faites-nous travailler, ne comptez pas que sur les chiffres d'affaires, comptez que nous avions des vies et des âmes. Et un artiste s'exprime, prend son temps. Il y a des choses qu'on voit et que vous ne voyez pas. C'est comme l'autre côté aussi des financiers. Il y a des choses qu'ils voient et que nous, on ne voit pas. Mais il faut chercher le juste milieu pour essayer de se comprendre. Donc, il a fallu beaucoup de temps. J'ai beaucoup souffert le côté financier.
Ah oui.
Parce que mes propres économies, je les ai foutues dedans. J'ai ouvert les petites associations. J'ai commencé d'abord à monter des associations avant de virer dans l'affaire de société. J'ai fermé pour réouvrir, fermé, réouvrir, jusqu'à ce que j'ai trouvé mon associé Jean-Marc Chauve, qui m'a beaucoup apporté aussi. Et même
Comment
quand.
vous l'avez rencontré alors?
Alors, je raconte, Jean-Marc Chauve, il était d'abord créateur de mode, il est historien et enseignant en même temps. Il travaille pour l'IFM. Et avant, quand je l'ai rencontré, il travaillait pour Martin Margiela. Et à l'époque, j'ai cherché quelqu'un qui était spécialisé sur les corsets, parce qu'il y avait une commande de robe de mariée. Et donc, je cherche, je tombe sur. Il a lu mon annonce, c'est comme ça qu'il m'a contacté. On a bien discuté sur plusieurs points de vue. On était tombé d'accord, on a travaillé ensemble. Finalement, au fur et à mesure du temps, on se voyait pour prendre des verres, discuter de la mode politique, un peu de tout, la culture générale.
Un
Et
ami, hein.
en ami, finalement, le feeling s'est établi. Et puis, on a fait chemin ensemble. Et c'est lui qui m'a aussi conseillé de commencer, parce qu'à l'époque, j'ai défilé hors saison.
D'accord.
En off, parce qu'il me disait, si il fait pendant la saison, ils sont tellement occupés, ils vont pas venir. Donc il faisait soit avant, soit un peu après. Et je faisais à l'époque, je faisais la ronde de Paris, et puis pour m'être glissé, j'avais pas beaucoup d'argent, même pour mettre mes invitations, les cartons à la poste. Je passais de porte en porte, les boîtes aux lettres, tout ça.
Vous alliez les mettre où?
Dans les boîtes à lettres de tout le monde que je connaissais, soit les maisons de couture, les bureaux de presse, les amis, les
Tous les gens dans
chanteurs.
la mode,
Ah
quoi.
oui, il faisait toute la nuit. Il faisait moitié nuit travail et moitié nuit aller déposer les trucs, les
Ouais.
invitations dans les boîtes aux lettres, glisser sur les portes. Et les gens venaient.
Ouais, vous avez une détermination,
Ah oui, les gens
mais.
venaient. Les gens venaient. En plus, ils venaient ou ne venaient pas. Mon idée, c'était de les informer. Qu'ils
D'accord,
soient
oui,
informés.
bien
Ils viennent et ne
sûr.
viennent pas, c'est pas mon problème, mais qu'ils soient informés.
Que vous existiez, quoi.
Et je faisais des cartons d'invitation assez jolis avec, je faisais des belles photos à l'époque artistique. Et donc ça plaisait. Donc même s'ils ne venaient pas, les gens les gardaient devant leur bureau, tout ça. Et les gens venaient, même si certaines faisaient, ils venaient juste pour encore un qui veut faire de la mode, un petit mannequin qui se levait faire de la mode. Et le sérieux commence à s'établir. Parce que quand c'est comme ça, on t'attend la première saison, deuxième saison, troisième saison, quatrième
Oui,
saison.
c'est la persévérance, en fait.
Ah oui, j'arrive à la dixième saison tous les ans. Je ne manquais pas de date jusqu'à aujourd'hui, depuis 93. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais sauté.
Et ça fait
J'étais
presque
toujours présent. Donc le
30 ans.
sérieux,
Ouais,
ouais,
ça fait 30 ans.
finalement, le sérieux s'est mis en place. Les mêmes qui ne faisaient pas ou utilisaient aujourd'hui. Où certains ne sont plus en place parce que, comme ça change, ils ont commencé à écrire sur moi, même quand je ne m'attends pas, il y a un article qui sort dans les magazines importants de la mode. Et ça montre que la persévérance, la confiance aussi, le travail finit toujours par. Il y a une lumière pour ça finit par payer.
Mais c'est alors c'est ça parce qu'en fait enfin vous avez parlé du fait que ça a été dur pour vous aussi économiquement, mais comment vous faisiez pour continuer à avoir cet espoir alors que justement ça devait être très dur. J'imagine aussi d'avoir une maison avec tous les coûts à assumer et vous-même rester à Paris, financer ça
Moi, je me faisais d'abord plaisir. Les défilés à l'époque, les années 90, milieu des années 90, toutes les filles qui défilaient pour moi, j'avais les plus beaux mannequins quand même. Tu vois, c'était des copines, tout ça venait défiler pour moi gratuitement. Je ne les payais
Ah
pas, je n'avais
oui,
pas d'argent pour
d'accord,
les défiler. Mais je m'arrangeais toujours à faire une jolie table avec à boire à moi, quelques trucs à manger, une ambiance formidable et des petits cadeaux. Et ce qui fait que quand la saison arrivait, tout le monde demandait la date de mon défilé parce que la plupart des filles voulaient venir faire l'ambiance et
C'est un peu
défiler.
comme à l'ailleurs en fait,
Ah,
oui, bien
exactement,
sûr.
comme elles étaient là pour. On vivait, il y avait. Oh, c'était sympathique.
C'est un mode de vie en fait, plus que. En fait, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on est un peu les héritiers de tous ces discours hyper. Comment dire, avec le self-made, type tout ce qui va être Facebook, Meta, Elon Musk et tout ça. Maintenant, on imagine toujours des créateurs de mode qui sont hyper motivés à travailler du jour au matin pour réussir. Alors que vous faisiez aussi ça pour le plaisir.
Moi, je l'ai fait pour le plaisir au départ. Il le fait pour le plaisir, pour les images que j'ai acquises de ma maman quand j'étais petit. C'est une très belle femme, très élégante, très sobre et tout, mais d'un chic incroyable. Comme d'autres femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, comme les Katusha, le tout modèle Katusha, comme Grace Jones, comme Adriana Carambeau. Il y en a des belles femmes et des femmes. Parce qu'on peut être belle ou beau plastiquement. Mais il y a
Ouais, c'est autre
certains
chose,
qui ont
bien
les
sûr.
deux. Certains, quand on voit de loin, peu importe ce qu'on peut dire sur les gens sans les connaître, parce que parfois on juge très vite. Moi, j'ai eu la chance de connaître certaines personnalités, comme je me répétais, Katusha, c'était une très belle personne. Adriana, je connais un tout petit peu Adriana. Elle a porté une de mes robes. On a travaillé à Monaco à l'époque pour le bal d'été de Monaco. C'est une belle personne aussi. Il y en a. Donc, je pense que tout ça, c'est important. Donc, cette époque-là, c'était autre chose. Les gens sortaient, les gens
Oui.
se mélangeaient. Il y avait quelque chose, et avec l'espoir aussi, et le respect qui allait entre tout le monde. C'est pas
Ouais.
comme aujourd'hui qu'on est à la course de la réussite. On fait tout
Oui,
et
je
n'importe
vois,
quoi. En
c'est
plus, il y a
un
une
peu ça.
facilité avec toutes ces machines. Les gens trichent et tout. En même temps, ils ont des grandes gueules, ils sont des stars, ils sont aussi, on ne
Ouais,
refuse
mais du
pas.
coup, c'est pour ça que j'insiste sur votre persévérance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent aussitôt. Donc, justement, sur ça, j'aimerais beaucoup parler aussi du coup de votre structuration un peu plus. Quand vous avez commencé justement là à vraiment vous instaurer dans le paysage concret de la mode, comment vous avez réussi à rentrer dans le calendrier officiel? Parce que même pour les gens qui ne veulent pas être dans la couture, déjà rentrer dans la Fashion Week parisienne, c'est un enfer. Donc comment vous avez réussi? Parce que même d'un point de vue réglementaire, il faut avoir plusieurs ateliers, il faut avoir un nombre certain de silhouettes, il faut faire du flou, du tailleur, etc. Donc comment vous avez commencé? Est-ce que déjà vous vouliez vraiment, c'était un objectif clair de rentrer au calendrier officiel? Comment ça s'est passé en fait?
J'ai trouvé ça très impressionnant. Très impressionnant. Et je me disais, calendrier officiel, j'avais jamais vraiment calculé d'aller jusque-là. Je voulais faire de la mode, point. Et c'est quand Jean-Marc Chauve me dit, tu devrais postuler au calendrier officiel de la couture, parce que tout, vu ton état d'esprit, ce que tu représentes pour le continent africain et la qualité du travail, il faut essayer. Donc à l'époque, j'ai fait des défilés, Didier Grimbach, qui était encore
Ah
président,
oui, tout à fait, qui est très important pour beaucoup de gens.
il est venu voir mon défilé. J'ai croisé sa sœur Sylvie Grimbach, très belle personne aussi. Des journalistes importants aussi à l'époque qui se sont déplacés pour venir voir mes défilés, comme Laurence Benaïm,
Ah oui, mais bien sûr,
l'incroyable
oui, bien sûr,
Laurence.
oui.
Le jour qu'elle s'est déplacée pour venir voir mon défilé, j'ai tremblé parce qu'elle ne se déplaçait pas. Elle était que pour Saint-Laurent, pour des noms incroyables. Et encore, c'était pas quelqu'un qui sort comme ça.
C'est toujours le
Et
cas.
aujourd'hui, Laurence est devenue une amie et une dame adorable. J'aurais pas pu imaginer ça. Donc, quand on voit tout ça, on s'est dit quand même qu'il y a le travail, le respect et la compréhension aussi d'un fonctionnement, c'est important. Donc, l'entrée au calendrier officiel de la couture. Donc, quand Monsieur Jean-Marc Chauve me dit, tu devrais essayer tout ça, donc il me dit, ah bon, tu crois qu'ils vont jamais me prendre? Il dit, essaye quand même. Qui risque rien n'a rien, mais bon, guerrier comme je suis dans ma tête, il dit, allez, je veux foncer. Donc, j'ai pris des renseignements, le dossier et tout, beaucoup de choses à remplir, comme vous le savez. Et j'ai postulé deux fois. Ça ne marchait pas. J'ai pas lâché. La troisième fois, j'ai demandé rendez-vous avec le directeur. Donc, c'était Pascal Morin
Ouais, tout à fait, qui est
qui m'a
toujours
reçu et tout. Il était très sympa avec moi. On a parlé et tout ça. Il parle même de ça dans mon livre qui vient de sortir, le titre Grande Couture.
Bien sûr, évidemment, sur l'Instagram de Décousu, les images du livre seront là, hein, bien sûr.
Exactement. Donc, il m'a reçu et tout, on a beaucoup discuté, ma vision, ma manière de voir les choses et tout. Il m'observait, il me regardait en plus. Quand c'est comme ça, moi, je suis direct. Je suis quelqu'un d'authentique, même dans ma manière de parler, j'ai fait des fautes, je les assume. Je ne peux pas parler français à 100%. Je parle français, j'adore le français, j'adore la culture française, je parle français comme je peux. Non, si même si j'ai fait des fautes, je respecte la langue, mais bon, pour moi, l'essentiel, c'est que.
C'est une nature, quoi.
Ouais, l'essentiel, c'est qu'on comprend ce qu'il veut dire. Donc, il m'a regardé tout et on s'était dit au revoir. Je suis reparti et la saison arrive, tout ça, et bam, et le truc tombe. Mon nom est dedans, quand ils annoncent. Je me souviens encore du rendez-vous, j'avais bien expliqué ma vision des choses par rapport à l'Afrique, l'importance de la matière africaine. Comment fonctionne le monde.
Et on va en parler de ça justement, parce que je voudrais vraiment parler de cet aspect. Il se trouve que c'est pas du tout anodin, c'est-à-dire que la France, de façon générale dans son histoire, a quand même ce fâcheux problème de se tourner vers son nombril. Là, c'est pas que pour la mode, hein, c'est vraiment pour tout ce qui est culturel de façon générale. Mais pour la mode, c'est vraiment très important, puisque par exemple, que si on parle de l'histoire du textile, les mousselines qui viennent de Mossoul, les indiennes qui viennent d'Inde, qui sont même directement liées à la colonisation anglaise, évidemment toutes les histoires, même sur le caoutchouc, hein, qui vient directement aussi de la colonisation pour tout ce qui va être sneakers, etc. Et puis, forcément, il y a un passif de colonisation vis-à-vis de l'Afrique, hein, par rapport à la France, et notamment sur cette dimension de la bonne société, qui a accès à la couture, etc. Donc c'est loin d'être anodin qu'un couturier africain, rentre dans le calendrier officiel. Est-ce que vous, au début, vous aviez peur? Est-ce que vous avez souffert peut-être de racisme dans le milieu? Alors, en tant que créateur, parce que c'est vrai que les mannequins, on les a beaucoup vus, notamment par des Saint-Laurent, mais en tant vraiment là que créateur, est-ce que vous aviez le sentiment que en venant d'Afrique, vous étiez un peu regardé de haut par ce monde parisien, etc., ou pas tellement?
Moi, je dirais le con, il y en a partout. Hein. Le racisme, il y en a partout, même en Afrique. Il y en a qui n'aiment pas les Blancs. Il y a les Blancs qui n'aiment pas les Noirs. Mais pour moi, je ne peux pas m'arrêter là. Quelqu'un qui ne m'aime pas, je ne veux pas manger sur la même table que lui. Et encore, même si on mange sur la même table que la personne qui ne m'aime pas, nous ne sommes pas obligés d'être amis.
Oui, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez... Oui, mais dans le monde de la couture et de la mode, vous voyez, c'est quand même vraiment un monde particulier.
Oui, ça, je l'ai subi encore. Mais pour moi, c'est... C'est là, ça va toujours résister. Mais moi j'ai ma route à faire. Je prends ce qu'il y a à prendre. Je ne veux pas aller gêner les gens là où je sais que les gens, je suis indésirable. Je ne veux pas aller forcer la main. Donc, mais ça existe parce que je l'ai vécu, je l'ai subi le racisme. Mais je ne suis pas là pour pleurnicher. Non, sinon, je ne pourrais pas avancer. Je sais que ça existe parce que j'en ai vécu ça.
Et quand vous dites qu'avec Pascal, par exemple, vous avez parlé Pascal, je dis ça parce que Pascal est venu sur le podcast, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très, très humain, qui prend vraiment le temps d'écouter les gens, etc. Vous avez dit que vous lui avez parlé de votre vision de votre travail, notamment par rapport à l'Afrique. Là, vous avez parlé aussi de votre sentiment de vous sentir... d'avoir un devoir justement par rapport notamment aux matières. Vous parlez du fait que vous travaillez aussi beaucoup avec des artisans directement africains. Vous avez quand même une volonté aussi de représenter donc en fait, comment est-ce que vous avez mis ça dans votre travail au regard d'un monde vraiment parisien qui est vraiment fermé sur lui-même, qui est aussi beaucoup dans l'appropriation culturelle parfois? Quelle importance ça a pour vous d'être... Est-ce que déjà vous vous sentez comme un couturier africain ou vous vous sentez juste comme un couturier? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant quand on parle de vous, et je me demande si ça peut vous énerver parfois d'être vraiment identifié comme le couturier africain.
Moi, ça ne m'énerve pas que je sois issu africain, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Et je suis fier d'être. Je crois que, comme il est dit toujours, la culture n'a pas de frontières. L'être humain, on a tous un truc qui nous réunit, c'est le sang qui est la même couleur pour tout le monde. Il n'y a pas de couleur noire ou couleur jaune, donc nous devons nous poser des questions. D'où sortons-nous, tout l'être humain? Peut-être qu'on a même, on a tous le même ancêtre.
Qui est d'ailleurs potentiellement en Afrique.
Ouais, et oui. Donc, pour moi, j'ai lui expliqué... l'importance de la couture, le savoir-faire du continent africain. Parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Bien Il y a sûr. Différentes cultures et tout ça, différents pays. Les savoir-faire.
Puis en plus, on parle de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a aussi le Maghreb, c'est Exactement. Encore autre chose.
Les savoir-faire, les cultures, l'importance aussi de la main-d'œuvre, l'apprentissage. Et ce qui me revient, j'aurais voulu voir les choses prendre une autre route, qu'on prête un tout petit peu attention à l'Afrique, parce que parfois l'Afrique en a tant donné. Beaucoup de gens se sont inspirés d'Afrique, mais qu'est-ce qui nous revient souvent? Parfois, quand il y a un retour, on fait sans l'Afrique parfois, dans certaines expositions, dans certains traitements culturels ou je sais pas médiatiquement, parfois les gens font comme ça les arrange. Et parfois l'Afrique est souvent secondaire. Il dit pas qu'il y a pas des choses qui sont faites sur l'Afrique, mais parfois on peut se poser des questions. Donc moi j'ai voulu qu'il y ait un autre regard du côté de la main d'œuvre concernant la mode, que le regard change un peu. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qu'il y a au moins un qui rentre dans la grande messe du luxe.
Oui.
Pour commencer un peu à montrer le savoir-faire africain. Donc c'est tombé sur moi, très bien.
Et j'en c'est pas quoi. Tombé sur vous, c'est vous avez quand même travaillé pour ça. Vous êtes humble, mais...
ouais, il y a eu beaucoup de travail et beaucoup de persévérance, beaucoup de patience aussi. Et quand c'est arrivé, j'ai pas cru que c'était... L'annonce est tombée. Après, j'ai dit non, ils se sont trompés, c'est pas peur de moi. Et enfin, ils m'ont rappelé deux ou trois fois. Le premier coup de fil, non, j'étais... Non, ça peut pas être moi, ils se sont trompés. C'est ce que je m'étais dit. Et après, ils m'ont rappelé, c'est bien. Et c'est là où je prends conscience. Et là, je vois tous les médias qui commencent à en parler. Et devant mon atelier, il y avait des caméras, il y avait des journalistes. Et même temps, il fallait que je prépare la collection pour faire mon premier défilé pour entrer au 42 officiel de la couture. C'était un truc de ouf.
Ah, bah là, tout le monde, en plus, allait vous regarder. Donc la pression et tout ça. Non,
mais moi, je n'avais pas mesuré l'importance de la chose. Il y a toute la presse, tous les vogues, c'était un truc de. C'était incroyable. C'est là où je me rends compte que j'étais le premier noir africain pour entrer officiellement dans cette grande messe. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je sois à la hauteur. Et je m'étais dit, je ne veux pas faire la copie de Saint-Laurent, que j'adore, ou de Dior, de Chanel, ou copier, parce que quand on voit des shows, ça peut nous bouleverser. Et puis,
après, c'est malgré nous, bien sûr.
Ah oui, donc il faut faire très attention. Moi, je m'étais dit, j'ai fait quoi? J'ai pas beaucoup de moyens. Quand on voit des tels shows, Chanel, Dior, Saint-Laurent, ou tous ceux qui sont dans la haute couture, même dans le porte-à-porte haut de gamme, c'est incroyable de voir ça. Donc, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour représenter l'Afrique? Je m'étais dit, je veux améliorer ce que je veux faire. Avec des choses simples, des beaux tissus, des jolis détails.
C'est surtout les coupes, moi, que j'adore. Les coupes
aussi, le côté homogène et minimaliste.
La couleur.
Les couleurs, l'attitude des mannequins aussi qui vont porter les vêtements. C'est toute une ambiance aussi, mais la coupe, le vêtement, le choix, la matière, que l'Afrique apporte quelque chose d'un peu nouveau. Comme dans les années 80 avec les stylistes qui venaient de l'autre côté de l'Asie, les Chinois, la Chine et le Japon,
par exemple. Mais le jean japonais qui a été un changement complet dans le workwear.
Donc mais... ça a été important que j'arrive à faire ça et que les gens regardent ça avec un autre œil, des choses nouvelles. Pas forcément la grande robe traditionnelle de la haute couture avec des crinolines, tous les beaux broderies de chez l'Osage. Moi, j'ai pas les moyens pour aller faire les broderies chez l'Osage. Donc, j'ai la main et l'œil pour pouvoir observer la qualité des choses.
Mais c'est d'abord la justesse, quoi.
La justesse à mon petit niveau, la main, parce que la main qui travaille aussi, c'est comme une danse, c'est comme un ballet, une répétition du même mouvement pour faire une broderie ou faire les ourlets d'un vêtement ou de draper aussi. Il faut avoir la main pour draper, pour faire du flou. Donc tout ça, c'est important quand on connaît, on sait ce qu'on veut. On a des images, on maîtrise l'allure des choses. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent naître.
Et bah alors justement, j'ai envie là de pouvoir parler un petit peu plus, vu qu'on approche de la fin de cet échange, notamment des matières avec lesquelles vous travaillez, pour qu'on comprenne aussi, puisque vous travaillez beaucoup avec du raffia, mais vous êtes vraiment, moi c'est ça que j'adore aussi dans la maison ici, c'est que vous êtes aussi un peu un expérimentateur. Souvent il y a des nouveaux types de tissus avec comment dire, il y a des, on voit des espaces ajourés dans les tissus avec des choses qui sont cousues ensemble, où vous créez une espèce de nouveau tissu totalement. Parfois, vous travaillez aussi avec des savoir-faire très anciens qu'on ne connaît pas du tout ici à Paris. Donc, quelle vision vous avez, avec quel tissu vous travaillez, quels artisans vous travaillez, comment ça se passe d'un côté plus matière?
Alors, le côté, la recherche des matières, ça se passe avec beaucoup de recherche, beaucoup de curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux. J'ai fait beaucoup de voyages pour aller en Afrique, aller faire des recherches, et rencontrer des gens aussi. Des choses aussi que je manipule moi-même. J'ai fait des mélanges, j'ai fait beaucoup d'essais avec des raffias, avec des matières différentes pour faire pour essayer d'obtenir des choses nouvelles. Et aussi au niveau des allures, les tombées, les volumes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Et la matière africaine, quand on l'assemble ou on le mélange avec, par exemple, la matière française ou italienne ou japonaise, ce genre de mélange, j'adore faire ça aussi. Et de rencontres, l'Afrique ou le Cameroun, l'Afrique est vaste, ça peut être aussi matière camerounaise et Sénégal, matière camerounaise et France, matière France et Mali, le Bogolan du Mali, des trucs comme ça. Et on voit la réaction aussi. Et ce que j'adore aussi, c'est travailler la matière brute. Du brut, hein. Qu'est-ce qu'on peut en faire du brut pour le rendre ses lettres de noblesse sans les artifices, sans les paillettes, ici, c'est là que du brut.
Et vous travaillez, alors, pour qu'on ait quelques exemples de matières, est-ce que vous pourriez nous citer quelques matières un peu phares de la maison?
Alors il y a les raffias, ouais. Les raffias que j'ai.
Des volumes incroyables.
Des volumes incroyables, j'ai fait des ronds, j'ai fait plusieurs choses avec, j'ai fait des. Parfois je les ai rebaptisés les fouets de raffias. Comme j'ai dit, au lieu de dire la haute couture, maintenant j'ai dit la grande couture. Parfois dans la mode, c'est bien d'essayer de composer sa propre langue, bien de sûr, la mode. On crée les mots, tout ça, les phrases et tout, c'est ça qui est beau et joli. Et on a les cotons bruts aussi, comme le godo du Cameroun, du Nord Cameroun. C'est un coton assez épais, très doux, qui est couleur ivoire, j'adore. Il y a les quintés du Ghana, il y a le bogolan du Mali, ça dépend des bogolans et différents bogolans. Et les voiles de coton mauritanienne, il y a les kita Côte d'Ivoire, tout ce qui est tissé aussi à la main ça se tisse en bandes, les bandes de 25 cm ou 15 cm, ça vient dans les rouleaux. Exactement. Là, on a eu un grand souci avec la poste.
D'accord.
Donc, là, j'y suis vraiment un peu mal, parce que parfois, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. On a fait des commandes, des très beaux quintés, avec des nouvelles choses. Et la poste a merdé. Il s'est passé ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, c'est pas arrivé. Alors que c'est arrivé en France, qu'est-ce qui s'est passé?
Vous êtes très serein, mon Dieu.
Ah oui, donc là, il faut qu'il trouve une solution. Je peux pas, avec le temps, le défilé, c'est dans 3 jours. Donc, c'est encore, nous sommes vendredi. On n'a pas pu récupérer parce qu'ils arrivent pas, il y a eu du bordel. Donc, nous sommes mal barrés pour tout ce qui est la matière des les quintés qui viennent du Ghana. Je ne pourrais pas les monter d'ici lundi parce que c'est encore à la pause. Mmh. Nous sommes vendredi soir déjà. Et encore, si la magie opère, peut-être demain c'est samedi matin. Et encore, donc, il faut que je trouve d'autres solutions. Donc, des tissus comme ça, c'est des tissus merveilleux. Il y a aussi tout ce qui est des écorces d'arbres. L'écorce d'arbre qu'on retrouve au Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, qui s'appelle le baume. C'est l'écorce d'arbre tapé à l'ancienne. On le bat, on le tape, on le manipule, et puis après on fait des couleurs. Donc ça aussi, j'ai fait des fleurs. Il peut faire différentes formes pour embellir les embellissements des robes du soir. Et au final, quand on regarde, on n'arrive pas à voir ce que c'est, alors que c'est l'écorce d'arbre tapé, très brut. Donc je le découpe, je fais les formes, après je fais les couleurs à la main, je le peins à la main artisanalement.
Et alors pour terminer cet échange, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, en étant là depuis toutes ces années avec cette persévérance, Quelle vision vous avez aujourd'hui du secteur de la mode? Est-ce que vous avez envie de continuer encore? Comment vous voyez un peu votre avenir et comment vous voyez l'évolution jusqu'à aujourd'hui du secteur vraiment de la couture?
Ouais, je veux continuer tant que j'aurai la force. Je veux continuer, même si c'est dur, c'est pas évident parce qu'on rentre au calendrier officiel de la haute couture, la grande messe du luxe. C'est bien beau de rentrer, après il faut pouvoir garder sa place.
Et la clientèle suit d'ailleurs ou pas?
La clientèle africaine, je me pose des questions.
Ah mais alors ça, c'est une question que j'ai, parce que j'avais discuté justement avec des amis qui sont aussi pareils, des designers originaires de l'Afrique subsaharienne et qui me disent que souvent il y a un peu des combats en interne et que parfois il n'y a pas trop de soutien entre personnes qui sont originaires un peu du même endroit justement. Ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti du soutien
Moi, je dirais qu'il y a toute une éducation à refaire. Pour la mode et le luxe, et la haute couture envers l'Afrique, parce que aussi il y a beaucoup de complexes. Les gens vont préférer acheter ce qui vient de l'Europe parce que c'est toutes ces grosses maisons de luxe, tout ça. Alors que il y a des talents en Afrique, il faut les encourager. À force, si on achète, ils vont améliorer la qualité du travail et ainsi de suite, ça va avancer. Et puis, ils vont finir par créer quelque chose de merveilleux. Pourquoi pas une maison de luxe? Si on ne les achète pas, ça ne peut pas évoluer dans tous les pays, dans tous les domaines.
Bien sûr.
Alaïa n'est pas devenue Alaïa en 2 jours, même Coco Chanel, même Monsieur Dior. Donc, si on n'achète pas les artistes, les jeunes artistes, on ne peut pas avancer. Donc, les gens doivent faire les efforts d'acheter, d'accompagner des artistes. Et le temps nous dira. S'ils ont fait des bons choix, ils croient qu'ils ne seront pas déçus, même s'ils ne sont plus là, tu vois. Même leurs petits-enfants ils seront contents de ça. Mais il faut savoir accompagner les gens dans leur démarche. Le talent, ce n'est pas le talent qui manque en Afrique, mais la compréhension, comprendre les artistes.
La désirabilité aussi.
Exactement. Donc il y a beaucoup de problèmes. La clientèle aussi, ce n'est pas facile parce que, comme je disais tout à l'heure, je vais me répéter, il y a énormément de complexes. Les gens sont libres aujourd'hui d'aller acheter ce qu'ils veulent acheter, Saint Laurent, Dior, Chanel, peu importe. Mais n'oubliez pas que les Africains créent aussi. Venez m'acheter, je viens de créer 2 sacs. Mes 2 sacs viennent de voir jour. Donc il y a le sac d'Adam, qui est un très joli gabarit, bien fabriqué, made in France. Qui n'est pas fabriqué en Afrique parce qu'il y a beaucoup de problèmes de peau, la qualité, aussi enlever les odeurs du cuir, tout ça, c'est pas très au point. Mais
Mais
pour
vous avez
l'instant,
essayé, donc si vous savez, c'est que vous avez essayé.
donc c'était pas trop ça. Donc j'avais quelque chose de bien, un très joli objet de luxe que j'ai voulu proposer aux dames. Et le deuxième sac, c'est plutôt unisexe. Il est tout petit, aussi avec les mêmes références, le triangle, le tombé, tout ça, du beau cuir, très bien fini.
De toute façon, je vous invite tous à aller sur le site de Monsieur Aïssi, forcément. Mais du coup, votre clientèle aujourd'hui, elle est plutôt française, plutôt américaine, plutôt, elle vient d'où?
Alors, ma clientèle aujourd'hui, ça vient un peu partout. J'ai des Asiatiques, donc des Chinoises. J'ai un peu
Vous
de.
travaillez beaucoup avec la Chine aussi,
Ah,
oui.
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout au niveau des artistes, et les stars chinoises. Hein. Que ce soit beaucoup de chanteuses, des comédiennes, tout ça. J'ai quelques Américaines, j'ai des Italiennes, les Suisses, les Françaises. Les Africaines, vous êtes où? Venez nous voir. Il y en a, je dis pas qu'elles sont
Oui,
pas,
non,
mais
mais
elles sont
bien
très
sûr.
peu.
Mais parce que oui, après, c'est une
Sont
question,
très
évidemment,
peu.
comme vous disiez, de soutien,
Très peu.
etc.
Je pense qu'avec le temps, ils vont finir par comprendre aussi. Donc on les laisse un peu, on peut les comprendre.
Oui, bien
On
sûr, bien
peut les
sûr.
comprendre. Donc on souhaite qu'elles vont comprendre que ce que nous sommes en train de faire, le combat est important. Donc qu'elles viennent nous encourager. Ils seront pas déçus.
Bah, ça c'est sûr, avec tous les métiers d'art et le savoir-faire magnifique qu'il y a, ça c'est une évidence. Eh bien écoutez, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre de votre livre et de vos livres, du coup, pour voir un peu tout ce que vous avez fait et qu'on me suive un peu si vous avez une actualité qui arrive dans ces derniers mois, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça?
Alors, mon premier livre s'appelle Milan Mingore en langue ironique du Cameroun. Ça signifie Histoire du soir, les contes imaginaires. Le deuxième s'appelle Le silence du masque, les contes imaginaires aussi. Et le troisième qui vient de paraître, là où j'ai fait la réflexion sur le monde du luxe, la haute couture, la mode, l'évolution des différents canons de beauté, les mannequins, tout ça. La clientèle internationale et c'est paru dans l'édition Débat public. Ça vient de paraître il n'y a même pas une semaine, donc on peut le retrouver à la FNAC et dans pas mal de librairies sur Paris et autres.
Et donc c'est la grande couture parimanaïsie ici.
La grande couture, pardon. Le titre, c'est La grande couture. Au lieu de dire haute couture, moi j'adore le mot grande couture.
Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que c'était un bon moment pour vous.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.
Et puis, bah, alors, à très bientôt et bonne chance pour le défilé.
Oui, j'espère que ça va bien se passer.
Mais oui, il n'y a pas de raison.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et bien sûr, un immense merci à Monsieur Iman Aïssi pour sa franchise, sa générosité de parole et pour le temps qu'il nous a accordé afin de revenir sur un parcours aussi long, exigeant et bien sûr profondément personnel. Ce que cette conversation rappelle, c'est qu'une trajectoire de créateur ne se résume jamais à un succès final, mais qu'elle se construit dans la durée, dans les refus, les recommencements, les fidélités, les rencontres, les choix parfois difficiles, et en tout cas que le fil rouge de tout cela reste la persévérance. Évidemment, nous avons parlé de la place de l'Afrique dans la couture contemporaine, et à ce titre, elle fait entre guillemets symbole pour les autres cultures, qu'il est intéressant de voir grandir au sein de la couture parisienne. Allez, moi j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, je vous enjoins à suivre le podcast sur l'Instagram Décousu Podcast, à liker, partager, commenter. C'est le meilleur moyen de soutenir l'épisode s'il vous a plu. Donc moi, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode